Mesdames, messieurs, merci beaucoup d'être venus. La conférence était annoncée à mon nom, mais j'ai demandé à mon amie et complice Françoise de bien vouloir venir avec moi. Ça sera peut-être un peu plus vivant pour vous et ça lui permettra de faire un peu de publicité pour son association, notre association de la promotion de l'intercompréhension. Je voudrais remercier la BPI de nous accueillir et je voudrais remercier aussi le collectif d'associations qui promeuvent le plurilinguisme d'avoir permis que cette conférence et l'atelier de demain aient lieu. Je ne vais pas me mettre devant vous, mais ici, parce qu'il faut que nous manipulions un peu l'ordinateur au fur et à mesure. Et je vous propose, tu veux peut-être te présenter ?
Bonjour, donc je suis Françoise Ploquin. J'ai créé l'association APIC il y a 2 ans, après avoir été pendant de longues années rédactrice en chef de la revue Le Français dans le Monde, qui est une revue qui s'adresse aux professeurs qui enseignent le français à des étrangers. Et pendant que j'étais à cette revue, je recevais des articles qui tous essayaient de montrer comment enseigner et apprendre le mieux possible les langues étrangères. Et pendant cette période, la démarche qui m'a paru être la plus intéressante est celle qui avait été expérimentée par Claire Blanche Benveniste avec l'Université de Provence, Salamanque, Rome et Lisbonne, pour mettre au point démarche qui consiste à s'ouvrir à l'ensemble des langues romanes en essayant de pouvoir les comprendre quand on est locuteur d'une de ces langues romanes. L'expérience a été faite et montrait que en une cinquantaine d'heures, un peu moins pour les Portugais, un peu plus pour les Français, on arrivait à comprendre des textes dans les 3 ou 4 autres langues romanes quand on était locuteur de l'une d'entre elles. Quand j'ai quitté le français dans le monde, j'ai donc voulu diffuser auprès d'un large public cette démarche qui est une démarche d'ouverture aux autres langues et en même temps aux autres, à nos voisins européens. C'est comme ça que la PIC est née. Vous en trouverez les références et vous trouverez des indications sur les publications au sujet de l'intercompréhension dans la petite feuille A3 pliée en deux qui vous a été distribuée. Voilà. Donc.
Alors, je vais te repasser la parole dans une seconde. Je vais lancer le top départ. Aujourd'hui, nous sommes ici rassemblés pour une introduction à l'intercompréhension. C'est une technique assez peu connue. Et par conséquent, nous allons essayer pendant quelques 3 quarts d'heure de brosser un tableau très rapide des principales modalités de cette technique d'apprentissage des langues et peut-être aussi de lui donner, de montrer dans quel arrière-plan géopolitique elle s'inscrit et quelles sont les différentes manières dont on peut la recevoir, la pratiquer et la connaître. Alors, pour commencer, je vais passer la parole de nouveau à Françoise pour qu'elle nous parle de la manière dont on échange quand deux locuteurs de langues différentes se rencontrent.
Donc, quand deux locuteurs de langues différentes se rencontrent, il n'y a que 4 possibilités mathématiquement pour qu'il y ait un échange entre les deux. La première possibilité, c'est qu'aucun des deux ne parle la langue de l'autre et ne veut la parler. Par conséquent, ils ont besoin d'avoir recours à une tierce personne qui est un traducteur ou un interprète l'échange ne peut se faire que par un intermédiaire. Solution coûteuse financièrement et qui n'est pas extrêmement satisfaisante dans la mesure où il faut faire confiance à quelqu'un. Donc nous passons tout de suite à la deuxième solution. La deuxième solution est que l'une des personnes ait appris la langue de l'autre. Dans ce cas-là, l'échange se fait avec une personne qui maîtrise complètement bien sa langue, qui est une grande aisance, qui ne se fatigue pas, et une autre personne qui, pendant tout l'échange, est obligée de travailler ou de parler dans une langue qui n'est pas la sienne, donc dans laquelle elle a une moins bonne maîtrise, où elle se fatigue davantage. Il y a une situation d'inégalité dans la maîtrise des langues employées entre les deux interlocuteurs. La troisième solution qui, de nos jours, apparaît comme étant la plus évidente, immédiatement c'est celle à laquelle les gens pensent, quand deux interlocuteurs se rencontrent, eh bien, au lieu de rester chacun dans sa langue, tous les deux abandonnent leur langue et passent à une tierce langue qui, le plus souvent, est l'anglais, mais qui pourrait être l'espéranto. Donc chacun abandonne sa langue, n'a plus la maîtrise complète de l'aisance qu'il peut avoir dans sa langue maternelle. Et les deux sont dans une situation d'égalité d'une certaine façon, mais d'une égalité dans le moins bien. C'est-à-dire que les deux sont dans le maniement d'une langue qui n'est pas leur langue maternelle, leur langue naturelle. La quatrième solution, et celle que nous vous proposons, c'est celle de l'intercompréhension, c'est-à-dire que chacun reste dans sa langue, s'exprime dans sa langue, mais a appris à comprendre celle de l'autre. D'où ce terme d'intercompréhension. Et par conséquent, l'échange se produit avec une grande égalité, puisque les deux interlocuteurs sont dans leur langue, la pratique, la manie, avec la plus grande aisance possible, et ne font effort pour comprendre l'autre que dans la compétence de compréhension. Alors, cette remarque en appelle tout de suite une autre, c'est que qu'est-ce qu'on appelle connaître une langue ? Quand on dit connaître une langue, ça recouvre beaucoup de choses, et ça recouvre en particulier quatre compétences que chaque locuteur peut avoir à des degrés extrêmement différents. Alors, ces compétences se partagent entre les compétences de compréhension, dont nous avons parlé tout à l'heure, et les compétences de production. La compréhension elle-même, comme la production, se divise entre l'oral et l'écrit. Donc, il y a la compréhension de l'oral, écouter et comprendre, la compréhension de l'écrit, lire et comprendre, et la production, s'exprimer, parler ou écrire dans une autre langue. Dans les exemples que vous pouvez avoir présents à l'esprit de gens que vous connaissez, vous verrez que certains ont seulement la production de l'oral ou seulement la compétence de compréhension de l'écrit. Ces compétences sont séparables. On peut avoir les unes sans avoir les autres, et par conséquent, ce qu'on appelle le niveau en langue est extrêmement variable suivant les compétences que l'on recherche. Donc, en ce qui nous concerne, l'idée de la démarche de l'intercompréhension quand on commence à essayer d'y entrer, c'est de commencer par ce qu'il y a de plus facile. Et ce qu'il y a de plus facile pour les locuteurs que nous sommes, c'est la compréhension de l'écrit, c'est-à-dire la compréhension de ce que nous pouvons lire dans les langues, et on va voir dans les langues proches. Pourquoi la compétence de la compréhension de l'écrit ? Eh bien, essentiellement, la première raison, c'est que l'écrit abolit le temps, abolit la durée. Vous pouvez constater, quand vous entendez un étranger parler une langue que vous ne connaissez pas, vous repérez quelques mots, mais pendant ce temps-là, le flux de la parole l'a déjà entraîné plus loin et vous n'arrivez pas bien à capter l'ensemble. Tandis que sur un texte écrit, vous avez sous les yeux des mots transparents, des mots que vous comprenez, et puis ceux que vous ne comprenez pas, vous allez sauter, passer à la suite, voir globalement se dessiner un sens sur l'ensemble de ce texte écrit et pouvoir revenir possibilité qui ne vous est pas donnée avec l'oral, pouvoir revenir sur des phrases écrites plus haut et pouvoir arriver à saisir le sens d'un texte. Par ailleurs, on supprime tous les problèmes d'accent, de rapidité d'élocution, de séparation des mots. Donc, la compréhension de l'écrit est celle qui, d'emblée, immédiatement, est la moins difficile, disons, à acquérir. Et donc, dans cette méthode d'intercompréhension que nous vous proposons, l'idée est de commencer par mettre le paquet, de tout mettre sur cette compréhension de l'écrit. D'essayer de lire en comprenant approximativement, en se débrouillant, en avançant, pour entrer en contact avec cette langue dite étrangère. Et là, on s'aperçoit que la fréquentation fréquente de la langue étrangère écrite va vous donner des repères et des références pour ultérieurement aller plus loin si vous voulez ou si vous décidez de développer les autres compétences. En particulier, pas besoin d'apprendre la grammaire puisque la grammaire, elle est déjà appliquée dans le texte écrit. Et en même temps, quand vous lisez quelque chose, vous allez voir se reproduire les mêmes phénomènes les plus fréquents et c'est sur cela que vous pourrez continuer et avancer. Donc, voilà pour les quatre compétences.
Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on emploie cette expression si courante, tu parles une langue, qu'est-ce que tu parles, etc., on tombe dans un piège. Car une langue, ce n'est pas seulement ce qu'on parle, c'est aussi ce qu'on reçoit, bien entendu. Et donc, nous décidons que du point de vue didactique, il faut commencer par recevoir et ensuite produire. Produire éventuellement à l'oral, éventuellement à l'écrit, mais commencer par recevoir la compétence de compréhension. Alors, pour l'illustrer, j'ai cherché un certain temps et un petit matin où je prenais mon café, je suis tombé sur cette boîte de sucre, ici reproduite, publicité gratuite, et qui d'ailleurs n'indique pas le mot sucre, même si nous autres en France, nous la connaissons en général assez bien, qui est écrite dans quelque chose qui est une accumulation de mots qui ne fait ni une phrase, ni quoi que ce soit, morceau pur, blanc, pur canne, ça ne veut absolument rien dire, mais tout le monde comprend très bien que c'est une boîte de sucre. Alors, nous allons nous intéresser à une partie de ce couvercle qui est cette partie-là, qui donne la définition du produit en un certain nombre de langues, sans doute les pays où est vendue la boîte de sucre en question. Je les ai reproduites ici et je vais vous proposer de les classer en différentes catégories, c'est-à-dire en fait en deux catégories plus une troisième illustrée par un exemple. Et ces deux catégories vont vous montrer que les familles de langues présentent entre elles des ressemblances qui sautent aux yeux, comme vous allez le voir immédiatement. Alors, je prends le premier exemple, sucre blanc de canne. Où est-ce que vous le classeriez ? Dans les langues romanes, les langues germaniques ou les autres langues ? Langue romane, j'entends un bruit et c'est tout à fait ça. Si nous prenons le deuxième, l'anglais, white cane sugar, germanique, on le met dans les germaniques. Le troisième, zucchero bianco di canna, c'est de l'italien. Weißer Rohrzucker, germanique. Witterrierzucker, germanique. Azúcar blanco de caña, romane. Azúcar blanco de caña, c'est quelle langue ? Portugais. Il s'indique Witterrierzucker, langue germanique. Et puis à la dernière, non, c'est de l'alphabet grec et c'est du grec. Ça se dit Lefki Zahari Apozaharo Kalamo, ce qui veut dire blanc sucre à partir de Kalamo, le calumet, une canne, Zaharo de sucre. Alors, j'ai reclassé tout cela à travers ces deux tableaux Et je voudrais très rapidement les commenter et aller vers cette idée que les langues par famille ont des affinités extrêmement fortes. Vous voyez que du côté gauche, dans les langues romanes, la disposition de ce petit énoncé tout simple, sucre blanc de canne, suit exactement la même structure, quelle que soit la langue. Il y a le mot principal, sucre, le qualificatif, une préposition, de ou dit, et ensuite le mot canne qui, en grammaire, s'appelle un complément du nom ici. De l'autre côté, dans les langues germaniques, on commence par l'adjectif qu'on met avant. Ensuite, on a le mot qui fait complément du nom, qui est sous la forme d'un génitif, qui est la plupart du temps, dans les trois cas du dessous, accolé au mot sucre, et en anglais, qui fait un peu exception, qui est séparé du mot sucre. Mais l'ordre est différent des langues romanes, mais identique dans les langues germaniques, avec non seulement une identité dans l'ordre des mots, mais une identité, dans les deux cas, dans les mots eux-mêmes. Car le mot blanc, par exemple, bianco, blanco, branco, c'est le même mot à quelques lettres près. La lettre de, la préposition de est à peu près la même. De l'autre côté, white, weißer, vite, vite, c'est à peu près le même son, c'est à peu près le même mot. De même, Rohrzucker, Ritzwicker, Rohrzucker. On voit bien à la simple énonciation de ces mots que c'est à peu près la même forme. Et on est là dans cet à peu près, il faut le théoriser et nous sommes au cœur de l'intercompréhension. Il s'agit de montrer qu'il y a une variation, sans ça il n'y aurait pas des langues différentes, mais que cette variation est dans un curseur assez faible, ce curseur de l'invariance. Vous pouvez donc dire que l'intercompréhension, c'est une pédagogie de l'invariance dans la variation. Vous pouvez même le retourner, de la variation dans l'invariance. Je le montre à travers, je reprends le mot blanc, je le mets en parallèle avec un prénom, Claire, qui va se dire Chiara en italien, Clara en espagnol et Clara en portugais. Et de l'autre côté, la façon dont on a composé l'élément Rohrzucker, Ritzucker, etc. Alors, je voudrais vous en montrer quelques exemples extrêmement rapides pour confirmer que ce n'est pas que sur cette boîte de sucre qu'on peut faire la démonstration. Par exemple, ce qu'on appelle la morphologie verbale, c'est-à-dire la façon de fabriquer le verbe, on prend le verbe « chanter » et on s'aperçoit que le verbe « chanter » est remarquablement régulier en espagnol, catalan, occitan, français ou italien. Il y a une régularité très grande du début du mot. L'exception ici vient du français, on y reviendra dans une seconde, double exception. D'abord, en français, on est obligé de mettre un pronom personnel sujet, je, tu, il, nous, vous, il. Et d'autre part, on commence le mot non pas par que, mais par che, je chante. Alors, l'avantage du pronom, c'est que ça évite d'avoir à fabriquer des terminaisons différentes selon les personnes. Puisque quand je dis ce mot chante, ça peut être je, tu, il, il au singulier ou il au pluriel. Les seules variations sont pour nous et vous, nous chantons, vous chantez. Bon, on peut trouver cette variation et cette invariance dans l'exemple de l'identité de la syntaxe. Dans un texte en catalan que nous avons traduit en plusieurs langues, nous voyons ce texte en catalan, c'est la deuxième ligne. En terra en una capsa de patates Pringles, les cendres del seu diseñador. Texte que nous ferons demain en atelier. Et j'ai mis en couleurs différentes la manière de montrer que cette phrase, beaucoup plus élaborée que le simple morceau de sucre de tout à l'heure, eh bien, suit exactement la même, fonctionne selon globalement le même schéma. Un verbe précédé en français du pronom personnel, ensuite un complément, lui-même composé d'un complément et d'un complément du nom accroché, un complément de lieu, et ensuite le complément d'objet. On aurait pu prendre le complément d'objet et le mettre à la place du complément de lieu, mais dans tous les cas, il y aurait eu la même possibilité de variation dans toutes les langues. Donc, identité de la syntaxe, identité de la syntaxe, mais aussi variation des langues. Je voudrais vous en donner trois exemples. En français, Un phénomène qui porte le nom compliqué de palatalisation consiste à justement avoir supprimé le début en « que » d'un certain nombre de mots. Et par exemple, on ne dit pas « canto », mais « je chante ». On ne dit pas « castel », on dit « château ». On ne dit pas « caballo », on dit « cheval ». Et ça marche comme ça pour à peu près la quasi-totalité des mots qui sont composés à partir d'une initiale de « que » plus ce qu'on appelle une voyelle forte. Le français se différencie par ce trait des autres langues. Deuxième exemple, en portugais. Alors, les portugais ont, eux, une caractéristique qui est de voir s'effondrer et disparaître le milieu du mot. Dans toutes les langues, on dit « luna », c'est l'avant-dernier exemple, mais en portugais, on dit « lua ». Dans toutes les langues, on dit « corona » ou « couronne », en portugais, on dit « coroa ». Dans toutes les langues, on dit « volar » ou « voler » ou « volare », mais en portugais, on dit « voar ». Dans toutes les langues, on dit « dolor » ou « douleur », on dit « dor » en portugais. On pourrait dire aussi, vous promenez dans la rue, il y a des banques portugaises ici, et qui s'appellent « caisse générale de quelque chose ». Eh bien, ce n'est pas « caisse générale », c'est « caixa geral ». On a oublié. Donc, l'effondrement du milieu du mot est une caractéristique du portugais. Un troisième et dernier exemple, chez l'italien, c'est la difficulté de prononcer deux consonnes de suite qui a fait que l'on assimile ces consonnes. Dans toutes les langues, excepté l'italien, on dit, presque toutes les langues, on dit docteur, doctor, etc. Mais en italien, on dit dottore. Dans les langues, on dit ocho, huit, huette, huit, opt, etc. En italien, otto. Dans toutes les langues, le troisième exemple, on dit observer, observer. En italien, on dit osservare, osservare. On ne dit pas proxime, on dit prossimo. On ne dit pas absolument, on dit assolutamente. Bref, on assimile deux consonnes différentes en une seule. Ce sont ces phénomènes qui font la caractéristique des langues. Néanmoins, vous reconnaissez bien, à travers ces caractéristiques de chaque langue, quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'invariance de toutes les langues entre elles, de toutes les langues romanes. On pourrait faire exactement la même démonstration avec les langues germaniques, avec d'autres groupes de langues. Nous allons venir à la variation entre les différents groupes de langues. Alors, une notion très importante, c'est que ces groupes de langues ne forment pas des entités séparées par des murailles. Toutes les langues communiquent constamment avec les autres, y compris les langues qui sont entre les groupes de langues. On introduit la notion de langue pont. Reprenons l'exemple de l'anglais tout à l'heure. Nous avions l'anglais qui disait « white cane sugar ». Eh bien, « white » appartient bien sûr à la famille des langues germaniques et « cane sugar » est allé chercher son origine dans les langues romanes. L'anglais, de ce point de vue-là, une langue pont. Est-ce que l'anglais a comme caractéristique spécifique d'être une langue pont ? En partie, l'anglais est fortement composé de vocabulaire, de lexique issu des langues romanes, pour plein de raisons historiques et aussi de l'évolution phonétique, mais toutes les langues sont toujours le pont des langues qui sont voisines. Je voudrais en donner un exemple que j'ai emprunté à la linguiste Henriette Walter dans son livre « L'aventure des langues en Occident ». Elle donne cette carte de France. En noir, les noms de lieux, de villes, par exemple, qui sont composés avec adjectif plus nom, c'est-à-dire, on va dire, à la germanique ou à l'anglaise. Ces noms de toponymes, de ces noms de lieux, sont très fréquents dans le Nord, répartis... Alors, au contraire, excusez-moi, les points rouges désignent les noms de villes ou de lieux qui sont composés à la latine, c'est-à-dire le nom d'abord et ensuite l'adjectif. Donc, au nord, on a Francheville, au sud, on a Villefranche. Au nord, on a Neuchâteau, Neuchâtel. Au sud, on a Castelnau, Châteauneuf. Au nord, on a Vieille ville, au sud on a ville vieille. Et quand on regarde la répartition, les traits qui apparaissent plus ou moins en jaune correspondent aux différentes invasions du peuple dont nous sommes issus, les Francs. Et on voit bien que ce peuple venu de Germanie a d'abord rempli et passé par le nord, c'est pas très clair, mais vers 440. Ensuite, vers 500, il a conquis à peu près la moitié nord de la France. Puis, il s'est répandu un peu plus loin. Et on voit très bien que les points noirs, c'est-à-dire le génitif germanique, occupent le haut de la carte, le nord, et que les points rouges occupent le bas de la carte. Il n'y a que 16% d'exemples de toponymes germaniques, fabriqués à la germanique, dans la Provence. Et donc, le français est bien une langue pont entre les langues germaniques et les langues romanes du point de vue de la toponymie. On le trouvera du point de vue de bien d'autres choses. Par exemple, le mot « guerre », et pas un mot, le mot « guerre » ou « guerrier » sont des mots qui viennent directement du germanique, avec la transformation que ce qui était « we » en germain, « war » en anglais, par exemple, « warrior », donne « guerre » ou « guerrier ». Un autre exemple, « William » donne « Guillaume ». Et waffle donne gaufre. On a donc bien un passage qui change certes le mot, mais qui le change de façon systématique. Et c'est là que c'est intéressant. Alors, je repasse la parole à Françoise, ou non ? Oui ? Allez, vas-y.
Bon, là, nous voudrions répondre à une question qu'on nous pose parfois. Et le chinois ? C'est-à-dire, votre technique de l'intercompréhension, c'est bien gentil, c'est bien joli, mais qu'est-ce qui se passe avec le chinois ? Alors, nous précisons que, comme vous venez de le voir avec la boîte de sucre, avec les langues ponts, etc., il est beaucoup plus facile d'approcher les langues qui font partie de la famille de langues dans laquelle on se trouve. Donc, la langue de l'apprenant est au centre et les langues apparentées autour. Et donc, c'est dans cette famille de langues qu'il est le plus facile de pratiquer l'intercompréhension. Pour un Chinois, il pratiquera l'intercompréhension éventuellement avec des Coréens, des Japonais. Et pour que nous arrivions à l'intercompréhension avec le Chinois, il faudra passer par plusieurs familles de langues avant d'arriver si loin. Donc, à l'intérieur des langues romanes, eh bien, par exemple, pour un Français, la compréhension du portugais, de l'espagnol, du catalan, de l'occitan, de l'italien et du roumain facilité et possible, comme vous avez pu le voir, avec des phénomènes de variance et d'invariance. Et la connaissance de n'importe laquelle, la connaissance même minime de n'importe laquelle d'une autre de ces langues, va vous servir pour mieux comprendre les langues de la même famille. D'où rechercher, quand on a un texte, s'accrocher à tout ce que l'on connaît dans la famille de langues que l'on aborde et aussi dans les autres familles, car très souvent, par exemple, les connaissances en anglais servent à repérer certains mots, que ce soit en catalan ou en espagnol. Et l'intérêt aussi de ça, c'est que quand on pratique l'intercompréhension avec les autres langues, on est très souvent amené à revenir sur la compréhension de sa propre langue et des termes que l'on utilise. Vous avez vu tout à l'heure dans l'exemple sur le catalan que ce monsieur se faisait enterrer dans une boîte de chips. Vous avez retenu le mot en catalan pour boîte ? C'était capsa. Capsa qui rappelle le mot français capsule. Et tout d'un coup, on se prend à penser, ah, mais oui, capsule, c'est une petite boîte, en botanique, c'est une petite boîte pour mettre des pilules, etc. Et donc, continuellement, si on cherche à découvrir la langue de l'autre, on est ramené à redécouvrir sa propre langue et à l'apprécier.
Alors, cette remarque amène à une remarque plus générale, qui est que tous ces phénomènes dont nous avons parlé, nous amènent à acquérir un certain nombre de stratégies de compréhension ou de trucs qui vont fonctionner de façon quasi systématique entre toutes ces langues. Comme l'esprit humain est fait pour utiliser son intelligence, c'est-à-dire reproduire des expériences en dehors des conditions où elles se sont déjà reproduites et à les transférer, on peut, au bout d'un moment, qu'on est dans le champ même de nos langues, par exemple pour nous, francophones, des langues romanes, eh bien, nous pouvons sortir un jour et aller vers d'autres univers et d'autres familles de langues. ne pourra pas sauter des langues romanes aux chinois du premier coup, mais on pourra sauter aux langues germaniques, aux langues slaves, et le continuum aidant, nous irons peu à peu vers le chinois, longtemps après. Je suis bien d'accord. Alors, il y a des enjeux politiques à l'intercompréhension de politique linguistique. Je voudrais aller très vite, car je vois que nous avons déjà un peu de retard. D'abord, une carte de l'Europe géographique, pour vous rappeler dans cette carte qu'il y a bien trois grandes familles de langues en Europe, en vert et au sud-ouest, les langues romanes, qui forment un bloc continu avec une exception, c'est la Roumanie séparée des autres, et qui va avoir un développement légèrement indépendant de ce fait même. Au milieu, du nord au sud, ici en couleur chaude orange, les langues germaniques, et au nord, en violet, bleu-violet, les langues slaves. Si on faisait de l'intercompréhension à Varsovie, on commencerait par les langues slaves. Si on fait de l'intercompréhension dans un pays de langue germanique, on va commencer par les langues germaniques. Et ensuite, on ira un peu plus loin. En Europe, il y a quatre exceptions qui sont bizarrement ou pas, je n'en sais rien, situées sur le même méridien, du nord au sud, le finnois, les langues baltes, le hongrois et le grec. Dans ces quatre exceptions, le grec est une langue indo-européenne, les autres ne sont pas des langues indo-européennes. Si nous regardons maintenant non plus l'Europe géographique, mais l'Union européenne des 27 pays et des 23 langues officielles, nous constatons que de locuteurs natifs de ces langues officielles, nous avons à peu près 42% des locuteurs qui sont de langue romane, 37% des locuteurs qui sont de langue germanique, donc c'est très équilibré, 17% des langues slaves, et les autres, toutes ces exceptions, font 3% du total. Les langues romanes dans le monde représentent, du fait de la colonisation, en grande partie, un énorme ensemble. Bien sûr, une carte doit être interprétée. Alors d'abord, excusez le fait qu'on ne voit pas trop l'Asie, c'est un effet de la projection. Et d'autre part, il faut se méfier des langues, parce que par exemple, au beau milieu du Canada, qui est une énorme tâche, il n'y a pas énormément de locuteurs tout court de langue romane ou d'autres, de toute façon. Bon, c'est donc. Mais cela pour vous dire que les langues romanes représentent une grande part de, évidemment, de l'Europe, qui est au centre de ma carte, une grande part des pays africains où les langues romanes sont des langues de colonisation, et une grande part. Et la totalité de l'Amérique, États-Unis excepté du point de vue de la langue officielle, mais pas excepté du point de vue de la pratique, car nous savons tous que l'espagnol s'est répandu dans tous les États-Unis, où pratiquement il est impossible de ne pas trouver un endroit où il n'y a pas des hispanophones. Nous regardons ça à travers un graphique, c'est-à-dire quels sont les locuteurs de langue maternelle romane. Eh bien, les voilà. L'espagnol représente 44%, le portugais 28% grâce au Brésil, le français 14% avec l'Afrique. Nous parlons de gens dont la langue maternelle uniquement est le français. Les Italiens, confinés, si j'ose dire, à la péninsule italienne, sont 70 millions environ, et les Roumains, 30 millions avec la Moldavie. Il y a quelques autres langues romanes qui ont un statut semi-officiel. Par exemple, le catalan représente 10 millions de personnes, autant que le portugais en Union européenne. Nous avons des langues comme l'aroumain, le corse, le franco-provençal, le frioulan, le galicien, le ladin, etc., qui font entre 8 et 10 millions. J'ai fait pour vous le calcul. Cela donne un total minimal de 739 millions de locuteurs natifs. Sachant que la plupart qu'on peut facilement doubler ce nombre par des locuteurs non natifs. Les Africains ont souvent, la plupart du temps même, appris à parler dans une langue africaine et ensuite acquis dans l'instruction, dans la vie, une autre langue qui peut être le français, l'anglais, le portugais, etc. Donc, quand on double, on arrive et on peut raisonnablement dire que les langues romanes, c'est à peu près 1 milliard d'individus sur Terre. Alors, évidemment, c'est pas la majorité, puisque nous sommes actuellement quelque chose comme 6 milliards hein, et que nous allons vers les 7. Très bien, ce n'est pas la majorité. Mais d'un autre côté, si sur Facebook vous demandez aux locuteurs de langue romane de venir vos amis, ça fait du monde. Alors, nous abordons un problème intéressant qui est le problème justement politique de monolinguisme ou multilinguisme. Alors, je trouve la position du problème ou l'énoncé à travers des publications fort sérieuses qui sont celles du Conseil de l'Europe et qui disent, vous pouvez le lire vous-même, les réponses politiques à la question du multilinguisme se situent entre les deux extrémités d'une suite continue de positions et d'orientations. Mais d'un côté extrême, les politiques de réduction de la diversité et de l'autre, le maintien et le développement de la diversité. On pourrait appliquer cette analyse qui concerne les langues à une analyse qui concernerait l'écologie et le milieu naturel. Les partisans, pour le dire un peu brutalement, de l'anglais monolingue, langue de contact universel, disent « c'est beaucoup plus pratique, tout le monde apprend cette langue, l'apprend le mieux possible, entre en contact avec les autres grâce à l'anglais, ça pourrait être une autre langue, l'espéranto, ça a été, dit-on, le français », chose qu'il faut beaucoup nuancer au XVIIIe siècle. Bref, une langue, c'est pratique, c'est quelque chose qui sert d'instrument pour communiquer, et c'est tout, le reste, on s'en fiche. Les partisans de la diversité linguistique disent, font valoir que, de l'autre côté, les langues sont aussi des porteuses de culture, sont des porteuses de vision du monde, et qu'adopter une langue unique pour faire parler des gens et donc faire parler des nations et des pays, c'est quelque chose qui nie cette diversité linguistique et qui évidemment non seulement nuit à la diversité, mais nuit et appauvrit la culture qui est derrière. Je prendrai un simple exemple, non pas de haute culture, d'écrivain, etc., mais imaginons par un cauchemar que tout le monde se mette à parler la même langue sur Terre. Alors, les Esquimaux vont dire « Très bien, j'espère que dans cette langue, nous avons nos 150 mots qui désignent les états de la neige. » Et les Wolofs vont répondre « Vous êtes bien gentil avec votre neige, mais moi, je n'ai pas besoin de ces 150 mots. En revanche, il m'en faut des centaines pour les différents états de la sécheresse et de la savane, dont on n'a pas besoin dans les contrées nordiques. » Et par conséquent, vous voyez qu'une langue étant adaptée à son terrain, eh bien, une langue universelle devrait s'adapter, c'est-à-dire se fragmenterait, et on retrouverait la diversité. Les langues sont faites pour se fragmenter. Elles sont faites pour se fragmenter, donc il est normal qu'il y ait diversité des langues, et il est normal aussi que ces langues, de proche en proche, appartiennent à des ensembles et retrouvent de l'invariance à travers leur diversité. Donc, je retombe sur mes pieds en disant que la diversité, c'est pour moi non seulement l'avenir, mais la nature même du phénomène langagier, et que par conséquent, il faut défendre ce phénomène et le promouvoir à travers le plurilinguisme, l'intercompréhension étant une méthode didactique pour promouvoir le plurilinguisme. À propos de didactique, quelques éléments de didactique, et je te repasse la parole. C'est comme je veux. Alors, on part d'un principe qui est que tout locuteur est potentiellement plurilingue. C'est-à-dire, comme je le disais, je crois, en introduction, n'importe qui est capable de se débrouiller dans un milieu où on ne parle pas forcément sa langue. N'importe qui, excepté les Européens actuels et les Américains du Nord, qui ont été fabriqués dans le moule de l'État-nation avec une langue supérieure aux autres et qui a tendance à éradiquer les autres. En France, nous avions, il n'y a pas encore longtemps, il y a à peu près 100 ans et avant, la plus grande diversité linguistique européenne. Nous avions des quantités de ce qu'on appelait des dialectes ou des patois. Mots qu'il ne faut pas employer en linguistique, car ça désigne une visée méprisante d'une langue. Alors qu'une langue est toujours une langue, même si on la qualifie de dialecte parce qu'elle n'est parlée que par une région. Mais finalement, la France est aussi une région de l'Europe, et l'Europe est une région du monde, etc. Donc, en France, il y avait une très grande diversité linguistique. Elle a été relativement vite éradiquée par la construction d'un État-nation fabriqué autour d'une instruction qui mettait le français au centre, et non seulement au centre, mais au-dessus de toutes les autres. Ça marchait pour un certain nombre de cas, c'était bien pour la loi, par exemple, elle pouvait être comprise par tous. C'était beaucoup moins bien pour le patrimoine, par exemple, de l'Occitan ou du Breton, qui a disparu ou quasiment disparu, et alors que ce sont des patrimoines souvent millénaires et que l'occitan est une langue plus vieille en France que le français d'Oyle, qui est notre français actuel. Donc, tout lecteur est potentiellement plurilingue. On peut le dire autrement. Nous sommes tous virtuellement plurilingues. Ça ne signifie pas que nous parlons plein de langues. Nous ne sommes pas des polyglottes, mais nous avons les capacités d'entrer dans d'autres langues et de circuler dans d'autres langues. De cela, il faut retenir deux formules. La première, c'est il n'y a pas de langue complètement étrangère. On peut toujours trouver un raccro pour comprendre quelque chose dans une autre langue. Et deuxièmement, derrière une langue se cache une autre langue. Avec l'apprentissage d'une langue, on prépare déjà celui d'une autre langue. Quand on entre en cours d'espagnol après avoir suivi le cours de français, on devrait profiter de tout ce qu'on a appris en français pour le replacer en espagnol. Sans oublier que l'espagnol est spécifique par rapport au français, mais pas seulement spécifique, est aussi très proche. Et quand on passe du cours d'espagnol au cours d'anglais, on devrait se souvenir dans le cas du cours d'anglais que l'anglais emprunte énormément de traits aux langues romanes, c'est-à-dire à notre français et à notre espagnol. Donc nous devrions bâtir des pédagogies autour qui montrent beaucoup plus l'invariance des choses que la variation. Quelques éléments de didactique. Comment fonctionne l'intercompréhension? Alors, impossible dans le cadre d'une conférence d'une heure de développer les choses. Donc, nous avons résumé, Françoise et moi, à quatre principes. Les stratégies didactiques, comme on les appelle quand on emploie les mots qui conviennent, c'est d'abord la stratégie du transfert et de la transparence. On l'a vu pour le mot sucre, par exemple, etc. Ce qu'on sait dans une langue, on essaye de voir comment on peut le reconnaître dans une autre. La deuxième stratégie, c'est qu'une langue, ce n'est pas qu'une langue. C'est aussi des idées, c'est un contexte, c'est un sujet, et que ce qu'on sait sur ce sujet peut nous aider. Un exemple, vous voyez dans n'importe quelle langue, ces derniers temps, écrit DSK. Ben, vous savez de quoi il s'agit, sans même lire l'article. Il nous pardonnera de le prendre comme exemple. La stratégie de l'approximation.
Le contexte, il faudrait préciser aussi que c'est sur le genre d'écriture. Par exemple, quand vous lisez un article de journal, inconsciemment, vous savez très bien ce que vous allez trouver dedans. Par exemple, s'il s'agit du reportage sur une manifestation, il va y avoir probablement le nombre de manifestants, l'endroit où ça s'est déroulé, qui a pris la parole, pour ou contre, quelles sont les revendications, si les gens ont défilé, d'où à où ils sont allés. Donc, si vous avez présent à l'esprit ce que vous-même vous écririez si vous aviez à relater une manifestation, ça va vous aider beaucoup dans la lecture de l'article de journal. Donc ça fait partie du contexte. Il y a le contexte culturel, il y a le contexte, par exemple tout à l'heure c'était un exemple sur la boîte de Pringles, si vous connaissez la boîte de Pringles, ça va vous aider à comprendre sa description. Mais il faut aller rechercher dans tout ce qu'on connaît dans les cases de son esprit.
La stratégie de l'approximation, alors là c'est pour se faire des ennemis auprès des professeurs méticuleux, dont j'ai été fort longtemps, c'est-à-dire justement permettre aux gens de ne pas être trop précis. Approximation est un très beau mot, ça veut dire s'approcher. Mais quand on est à 1 km et qu'on n'est plus qu'à 900 mètres, on s'est approché déjà. Alors s'approcher, ce n'est pas forcément être dans le périmètre d'un mètre autour du mot. Oui, il existe des faux amis, c'est 3% du vocabulaire. Donc vous avez 97% de tomber sur des vrais amis. Alors n'ayez pas peur des faux amis. Vous ne comprenez pas un terme parce que, ou plutôt vous traduisez... Pas traduire, vous approximez un mot, le mot approximé existe chez Beaumarchais, donc je n'ai pas de honte à l'utiliser, ce n'est pas un néologisme. Vous approximez un temps de verbe et vous êtes trompé, ce n'était pas un passé, c'était un futur. Ma foi, vous aurez fait une petite faute, et la fois d'après, vous ne la ferez pas, ou vous la referez et le monde ne s'écroulera pas pour autant. Donc l'approximation, c'est avant tout une vertu pédagogique pour donner confiance. La quatrième grande stratégie, c'est que, précisément, en allant de texte en texte et en essayant de les comprendre et non pas de les produire, il y a un phénomène évident qui est que ce qu'on rencontre le plus fréquemment, c'est évidemment ce qui va être le plus utile. Et de texte en texte, la structure, la morphologie, la syntaxe vont être fréquemment les mêmes et c'est cette fréquence que nous allons retenir. Donc, nous n'allons pas faire une description générale et, si j'ose dire, pour enfoncer le clou, académique de la grammaire. Nous allons nous contenter des phénomènes les plus fréquents. Ça voudra dire, quand on apprend le français, qu'on voit très souvent des présents, des passés composés et des futurs. On voit très rarement des passés simples et on voit quasiment jamais d'imparfait subjonctif. Donc, on saute. Évidemment, rien n'empêche un jour lointain d'apprendre l'imparfait du subjonctif. Fort belle chose et fort noble chose que l'imparfait du subjonctif. Mais dans la fréquence, quelque chose de tout à fait anecdotique. D'où l'idée d'une grammaire butinée où nous apprenons les langues comme les abeilles en transportant du pollen et en fécondant notre capacité à comprendre les langues de fleur en fleur, de phrase en phrase, de texte en texte. Voilà pour des stratégies très rapidement dites. Et je voudrais maintenant vous présenter quel serait, selon nous, l'idéal d'un enseignement refondu à partir, non pas de l'intercompréhension, mais d'un enseignement refondu à partir des langues. Alors, merveille des présentations diaporama, voici... Ah non, pas du tout. Alors, d'abord, les ressources didactiques, je vous les affiche. Vous les avez dans la feuille qui vous a été distribuée. Je passe, donc, vous pourrez vous y référer autant en temps que de besoin.
Euromania, c'est une vingtaine de fascicules qui ont été faites sur les programmes de CM1, CM2, sur les questions qui reviennent dans chacun des pays de langue romane, comme l'évolution de la grenouille, les châteaux forts, le système solaire, etc. Et les exercices sont présentés dans les 6 ou 7 langues romanes. Il y a une partie centrale qui est dans la langue maternelle de l'enfant pour qu'il capte bien l'information sur le sujet qui est étudié. Mais le reste, l'habitue à fréquenter les autres langues romanes. Il y a des petits retours sur la langue à la fin de la leçon.
Alors, le grand intérêt d'une méthode comme Euromania, c'est qu'elle apprend l'histoire, les sciences, les leçons de choses, comme on disait de mon temps, je crois que ça s'appelle autrement maintenant, mais peu importe, elle apprend du savoir à travers les langues. Et elle n'apprend pas que les langues elles-mêmes. Alors, nous avons là le cursus des années obligatoires de l'enseignement, allant du primaire, puis collège, lycée, études supérieures. Voici comment nous apprenons les choses, selon une flèche qui nous emmène vers, en principe, les études supérieures. Mettre les langues au cœur de l'éducation, ça ne veut pas dire en faire une partie, comme il y aurait de l'histoire, il y aurait des langues, c'est le cas actuellement, mais de les intégrer au milieu même du cursus de l'apprentissage. Comme par exemple, de nos jours, cela se fait très fréquemment avec les classes bilingues ou classes européennes, où l'on enseigne une matière avec une autre langue que la langue habituelle de l'enseignement. C'est-à-dire en France, on enseigne l'histoire avec de l'espagnol ou de l'anglais, ou en Espagne, on apprend les maths avec un cours d'anglais ou de français, etc., etc. C'est une invention, cette façon de procéder pour apprendre est une invention cocorico française et qui concerne actuellement en Europe plus de 450 000 élèves. Donc ce n'est pas tout à fait anecdotique, c'est quelque chose et qui marche très bien. Car justement, on oublie qu'on doit apprendre les langues dans leur pureté grammaticale. On les apprend justement comme le support d'un savoir général. Et donc, on les apprend d'autant mieux qu'on oublie qu'elles présentent en elles-mêmes une difficulté. Alors, selon moi, il faudrait commencer dans les premiers âges de la vie scolaire par ce qu'on appelle l'éveil aux langues. Il y a toute une série de programmes très intéressants, montrer la diversité des accents, des écritures, des manières de dire les choses les plus simples, que justement le pain c'est plutôt occidental, mais le riz c'est plutôt oriental, etc., etc. Ensuite, on irait vers l'invariance, c'est-à-dire qu'on apprendrait, on entrerait par l'intercompréhension dans l'étude des langues. Et puis évidemment, à un moment, il faut bien rentrer dans le vif du sujet et que les personnes que l'on éduque apprennent les langues de façon très précise et par conséquent, plus ou moins en même temps qu'à la fin de l'intercompréhension, on ferait rentrer un apprentissage approfondi d'un certain nombre de langues. Ce qu'on fait maintenant, mais en commençant directement, en se jetant directement dans l'eau froide et en plus en ne mélangeant pas assez ces matières pour montrer ce qu'elles ont de commun. Voilà à peu près où je voulais en venir. Alors, maintenant, c'est ton moment. Voici la minute de pub pour l'APIC.
Non, pas du tout. On a essayé de faire circuler des feuilles où vous nous mettez votre nom et votre mail si vous voulez être tenu au courant de nos activités et avoir des petits repères de temps en temps sur des phénomènes qui touchent les langues romanes, les quatre langues romanes. Et puis, il y aura des ateliers d'intercompréhension à partir du 17 octobre au café La Petite Louise à l'angle de la rue du Château d'Eau et du Faubourg Saint-Martin. Voilà.
Donc, pour conclure cette petite initiation, je vous serais très gré de retenir que l'intercompréhension a un double enjeu, un enjeu scolaire, un enjeu didactique et un enjeu politique qui est de créer de la citoyenneté, du contact non seulement entre les langues, mais entre les êtres humains. Les langues n'existent pas en dehors des êtres humains. Deuxièmement, que c'est une excellente méthode pour apprendre à apprendre les langues en général. Et troisièmement, qu'elle est une merveilleuse façon de s'ouvrir l'esprit intellectuellement, culturellement et éthiquement. Demain, vendredi, pour ceux qui sont inscrits, vous pourrez pratiquer de façon très concrète l'intercompréhension dans un atelier qui sera organisé ici. Et si vous ne pouvez pas y aller parce que c'est déjà plein, vous pouvez trouver sur la feuille qu'on vous a distribuée d'autres rendez-vous. C'est le moment de conclure, plutôt de vous dire merci, c'est fini, et de vous le dire en plusieurs langues et de vous passer la parole pour quelques questions. Merci.
Merci à vous surtout. Et maintenant, donc, la parole est au public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Avez-vous des questions?
Alors, on dit toujours, comme c'est très difficile de poser la première question, on passe directement à la deuxième.
Est-ce que votre méthodologie prend en compte la ponctuation? Car à propos d'approximation, moi qui écoute France Culture, radio de référence, je suis effaré par la démolition de la langue en mettant la ponctuation n'importe où, c'est-à-dire pas du tout.
Alors, écoutez, il y a, je crois qu'on n'est pas dans le sujet. On est dans le sujet de ce qu'on peut déontologiquement demander à une radio de référence comme par exemple France Culture. C'est un sujet en soi. D'autre part, il faudrait faire très attention à la radio, c'est du son. Et donc la ponctuation, c'est la manière de rythmer la phrase. Et effectivement, une des tendances du français contemporain, c'est de rythmer des phrases qui se terminent avec des blancs. C'est de rythmer des phrases qui se terminent avec des blancs. Et on fait ça, et la mère et les enfants sont morts dans d'atroces souffrances. Il y a 30 ans, on disait « Mesdames, messieurs, veuillez maintenant assister à la retransmission d'un ceci et cela ». Les langues évoluent extrêmement vite, et l'oral encore plus. Il faut savoir que la référence, c'est ce que le peuple dit. Malesherbes allait chercher ses exemples chez les crocheteurs du pont, neuf. Pont au foin, c'est toujours le peuple qui a raison. On traduit ça en linguistique en disant l'usage a raison même quand il a tort, mais ça n'empêche pas d'être déterminé à vouloir parler correctement individu par individu. Si vous le faites, vous faites très bien, et la dialectique entre votre correction et l'absence de correction des autres, espérons qu'elle donnera un résultat passable.
Oui, alors je m'appelle Yannick et j'étais intéressé par la partie qui concernait la géographie, c'est-à-dire les interactions entre les langues, parce que je m'intéresse un petit peu à la langue arabe et je voulais vous demander comment on peut l'impliquer dans l'interaction, l'intercompréhension.
Alors, le problème, il y a... Alors, les Arabes sont une famille de langues bien spécifiques, les langues sémitiques, d'une part. D'autre part, les Arabes ne sont pas extraordinairement compatibles entre eux. Un arabe, l'arabe du Maroc, n'est pas, je pense, complètement identifiable par l'arabe irakien, par exemple, pour prendre un peu deux extrémités d'une spectre. En revanche, je sais que l'arabe égyptien est assez proche et de l'irakien, de l'arabe irakien, et de l'arabe du Maghreb, parce que précisément, il est dans une position centrale. Dans le cas de l'arabe, il se passe une autre chose, c'est que l'arabe classique est quelque chose qui domine un peu de façon très forte pour des raisons religieuses et qui permet de renouer les fils constamment. Mais maintenant, regardons les mouvements migratoires depuis à peu près la conquête par la France de l'Algérie, 1840 plus ou moins. Nous avons eu énormément d'échanges de langues avec l'arabe. Plein de mots sont venus de l'arabe à cette période-là et plein de mots étaient déjà là avant, algèbre, etc., etc. Donc, nous avons emprunté à l'arabe énormément de lexique. Là, les populations arabophones de nos jours empruntent aux langues européennes et en particulier à l'espagnol et au français pour des raisons de colonisation historique énormément de mots. On entend sans arrêt prononcer des mots français au milieu d'une conversation en arabe, en Algérie par exemple, ou au Maroc. Donc, c'est la preuve que même n'appartenant pas à des mêmes familles, ces langues ont des affinités. Pour terminer sur votre question, parce qu'on n'a pas trop le temps, je voudrais dire qu'il existe une autre langue sémitique, l'hébreu, et que le peu que j'en connais, shalom veut dire salam en arabe. Et qu'on voit bien la proximité des deux langues. Et on sait aussi la guerre que se livrent les peuples qui parlent ces deux langues. On voit bien combien la langue pourrait être un moyen de les relier. L'intercompréhension ici, faisons un rêve, pourrait être un moyen de dire nous appartenons à la même famille de langues. Et peut-être bien qu'un jour nous pourrions appartenir à une famille, non pas à la même famille politique, mais au moins à des familles qui vivent en échange et non pas en guerre.
Merci. Bonsoir. Je suis arrivée un petit peu en retard. Je m'en excuse. Je pose juste la question par rapport aux créoles, les différents créoles. Oui.
Alors, c'est une question extrêmement intéressante parce que les langues divergent constamment, s'éloignent les unes des autres, un peu comme, pour le peu que j'en sais, en astronomie, paraît-il, les planètes ou les systèmes, etc. Mais à une échelle de temps humain très faible, 3 siècles, eh bien, les créoles sont apparus comme à la fois nés de la langue du colonisateur et de la langue des esclaves d'alors, et se sont quand même fortement calqués sur la langue du colonisateur. Et nous sommes donc dans un angle où la divergence va peu à peu apparaître, mais la divergence est encore très faible. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les créoles de l'océan Indien, réunionnais ou mauriciens, sont parfaitement intercompréhensibles par les créoles de la Caraïbe. Et qu'il y a là et que tout cela est relié par le fait que le français, dans ces cas-là, a été la base de construction des créoles. Je crois qu'il y a beaucoup à prendre de l'intercompréhension dans 2 cas. Le premier cas, c'est pour valoriser les créoles comme langue appartenant au territoire de la République française, dont le premier mot de la devise est « égalité », et qui est souvent battu en brèche du point de vue linguistique, et peut-être dans d'autres domaines aussi, mais ce n'est pas le sujet. Et la deuxième chose, c'est que beaucoup des enfants de l'outre-mer ont d'abord appris le créole, et qu'on les vide de leur créole pour leur mettre du français pur à la place. français pur ne signifiant absolument rien. L'intercompréhension par l'approximation et par l'invariance permettrait de passer beaucoup plus aisément et de façon beaucoup plus rassurante et désinhibante pour le petit créolophone vers le français. On lui montrerait combien sa langue l'a préparé au français. Et il y aurait un moment où il faudrait savoir distinguer les choses, c'est-à-dire distinguer ce qui est créole, ce qui est français. Mais ça viendrait que dans un deuxième ou troisième temps, et ça permettrait beaucoup moins d'échecs scolaires en Outre-mer.
Oui, j'en profite pour vous remercier pour votre exposé très intéressant. Et j'aurais deux questions. La première sur les jeunes enfants, vous venez de parler du créole. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en utilisant de mélanger un petit peu les langues et de faire que les jeunes enfants soient noyés, ne sachant plus très bien quel mot appartient à quelle langue. Voilà pour ma première question. Et la deuxième, si j'ai bien compris, donc on part pour explorer plusieurs langues d'une même famille, par exemple la famille romane, on part du français, et puis on va de proche en proche vers par exemple l'anglais qui est un pont vers les langues germaniques, etc. Est-ce que vous pourriez, est-ce qu'il y a des langues, par exemple, prenons le cas des langues slaves, des langues qui sont plus intelligente d'apprendre en premier afin de procéder de proche en proche vers d'autres langues, disons des langues de référence dans une famille. Voilà.
Alors, la première question, c'est sur la confusion possible dans l'esprit d'un enfant qui apprend plusieurs langues en même temps, c'est que cette confusion n'est pas seulement possible, elle est obligatoire quand on a entre 1 an et 3 ans. Tout enfant confond. Et les enfants disent, par exemple, « je mourirai » quand ils ne parlent que le français, parce qu'ils composent de façon très régulière, mourir plus la désinence, et on leur apprend après que ça, c'est une exception. Par exemple, quand ils apprennent plusieurs langues, il y a une étape où ils confondent les langues. Et cette étape est très vite résolue toute seule, et c'est résolu sur des milliards et des milliards de fois dans l'existence. Depuis toujours, les enfants ont appris plusieurs langues, et se sont débrouillés ensuite pour savoir les classer de façon très belle. Alors, on n'aurait pas le temps ici, mais il faudrait que je vous dise que sur ce sujet, les linguistes étudient à travers l'IRM la façon dont le cerveau apprend les langues. Il y a une zone très séparée dans le cerveau pour comprendre et une zone séparée pour produire une langue. Pour un enfant bilingue, c'est un cas très précis et assez rare, eh bien, on ne construit qu'une zone de compréhension. Et il ne construira, cet enfant bilingue, qu'une zone de production, avec une possibilité de temps en temps se tromper de l'un à l'autre. Mais c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Quand on vit, qu'on est francophone par exemple, et qu'on vit à Madrid pendant longtemps, il y a un moment où pour s'exprimer avec des francophones, on recourt à des expressions espagnoles. Si c'était à Rome, ça serait avec des expressions italiennes, etc. Parce que c'est celles qui viennent naturellement sur le bout de la langue, justement. Et que c'est là où on voit qu'il y a une confusion, mais que cette confusion n'est jamais grave. Donc, la réponse à votre première question, c'est que oui, il y a confusion, mais cette confusion se résout toujours toute seule. La deuxième question, c'était est-ce qu'il y a des langues qu'il faut apprendre en premier ? Alors, ce sont toujours les langues les plus proches de la vôtre. C'est vrai que l'anglais est la langue germanique la plus proche. Mais si vous êtes suédois, apprenez d'abord le danois, ça vous servira tout de suite pour l'allemand et pour l'anglais. Et si vous êtes slavophone, eh bien, slavophone du nord, vous êtes russe, apprenez le polonais, et puis vous passez aux langues du sud, c'est-à-dire aux langues yougoslaves, et par le roumain, vous entrerez dans les langues romanes, parce que le roumain est bourré de slaves. Et donc, ça dépendra du cas de chacun. À chaque fois, chaque langue est le centre de son territoire linguistique, et votre question est parfaitement motivée, mais la réponse va dépendre de l'endroit où vous vous situez, c'est-à-dire de votre langue de départ.
Oui, ça marche ? Je voulais poser une question, mais là, je viens de trouver la réponse. Vous faites des ateliers pour des groupes, c'est ça ? Je suis enseignante.
Oui.
Et je ne sais pas si vous participez à
des... Alors,
vous faites... Ou il y a des CD-ROM aussi à la vente ou...
Alors,
Pour l'instant, je vous ai dit, l'association a été créée il y a 2 ans. Nous avons expérimenté les ateliers. Nous avons vu que ça ouvrait l'esprit des gens, que ça plaisait, que ça amenait à un appétit, une curiosité à l'égard des langues qui était tout à fait réjouissante. Nous sommes disposés à faire des ateliers si une entreprise, un groupe, une association, etc., nous le demande pour faire un certain nombre de séances, une quinzaine de séances d'une heure et demie ou quelque chose comme ça. Nous l'avons déjà fait plusieurs fois dans des bibliothèques municipales qui nous ont demandé de venir comme une activité, des ateliers pour les adultes, parce qu'on fait souvent beaucoup de choses pour les enfants, mais les adultes sont moins chouchoutés dans les bibliothèques. Donc c'est une bonne activité à faire. Et pour l'instant, pour essayer de faire connaître cette méthode au public, il y aura les ateliers à la Petite Louise, comme vous avez pu le voir sur le papier. Il y aura aussi le 5 octobre à la Maison des Langues. Toute la journée sera consacrée au plurilinguisme avec 2 ateliers d'intercompréhension des langues romanes et 1 atelier d'intercompréhension des langues germaniques, plus beaucoup d'expériences avec les enfants auxquelles les adultes peuvent assister pour voir combien les enfants sont plurilingues. Et puis, au mois d'octobre, il y a un éditeur italien qui s'appelle Oepi, qui va être en relation avec un éditeur français, nous l'espérons, qui va publier une méthode qui s'appelle EUROM 5, dont nous nous inspirons beaucoup, des travaux préparatoires d'EUROM 5 et du précédent livre qui s'appelait EUROM 4, qui a été tout de suite épuisé. EUROM 4 voulant dire Europe romane sur 4 langues et EUROM 5 voulant dire Europe romane sur 5 langues, c'est-à-dire l'italien, l'espagnol, le portugais, le français et le catalan, sur 5 langues.
Alors, il est en train d'être imprimé et il sera à la vente à partir d'octobre. Il y a aussi, là, on a parlé de l'association et de groupes ouverts plutôt au grand public, comme on peut supposer que vous l'êtes. Pour une des grandes difficultés en général, c'est de montrer combien les langues sont au cœur de l'éducation. Mais une tendance a lieu actuellement dans les cursus universitaires. Alors en France, il se trouve que, j'espère momentanément, les professeurs ne sont plus formés. Chacun sait que c'est un métier qu'on n'a pas besoin d'apprendre. Bon. Mais quand on aura reformé, quand on aura remis sur pied une formation des professeurs, eh bien, il faudra espérer qu'une partie de cette formation, qu'il s'agisse de professeurs de physique, d'histoire géo, de français, de tout ce que vous voulez, une formation leur sera donnée pour précisément aborder cet élément essentiel de la construction d'une Europe qui est que nous avons diverses langues et que nous devons apprendre à nous dépatouiller à travers ces différentes langues, à travers les différents moyens dont je vous ai parlé. Et donc, mettre le plurilinguisme au cœur d'un enseignement, c'est non seulement très formateur pour les enfants, mais c'est quelque chose qui entraîne une révolution dans la manière même d'apprendre les choses. Il n'y a pas que l'intercompréhension dedans. Donc, beaucoup de recherches didactiques sont faites dans beaucoup d'universités, mais il faut bien dire que ça reste encore peu écouté par les politiques actuellement.
Je voulais compléter l'intervention de Françoise Pouquin pour dire que demain, il y aura un atelier d'intercompréhension à la Bibliothèque publique d'information. Normalement, il est complet. Bon, c'est possible que sur les 20 personnes inscrites, une ou deux ne viennent pas. Mais en tout cas, demain, il y a un atelier à 18h, animé par Pierre Janin et Annie Demanger. En galerie, en buteau, oui, à la bibliothèque.
Et le 5 octobre, il y aura justement un débat à 17h30 à la Maison de l'Europe sur la diversité des langues en Europe avec un député européen, M. Cavada, Alex Taylor, grand linguiste qui faisait des présentations sur France Culture, mais qui est à la fois anglais, allemand et français, linguistiquement parlant, et tout à fait européen dans l'esprit. Un ainsi que M. Toscano, président de la presse des journalistes étrangers, et M. Doublet, qui est président des entreprises du top 10, et qui va sans doute pousser vers l'enseignement de l'anglais. Oui. Voilà, donc nous vous invitons tous à cette conférence mercredi 5 octobre à 17h30 à la Maison de l'Europe. Et puis, si vous voulez suivre nos activités, notre site est tenu à jour. C'est apic-langue.eu. C'est là où vous aurez toutes les informations régulièrement concernant des ateliers, des conférences ou des parutions comme celle de Rome 5 que nous indiquerons bien sûr avec l'endroit où vous pouvez les trouver en France. Voilà.
Une dernière question. Oui. Je suis arrivée en retard et je ne sais pas si le sujet a été évoqué, mais quelle est la part de l'intercompréhension dans une langue comme l'espéranto?
L'espéranto, c'est une langue qui me met mal à l'aise parce que, d'un côté, c'est entièrement fabriqué sur de l'invariance européenne. Et c'est un magnifique objet linguistique, une conception. Il y a eu des milliers de langues inventées. C'est la plus claire d'entre toutes pour nous, Européens. C'est celle qui fonctionne le mieux. C'est une magnifique invention. Ça, c'est une chose. De l'autre, ce qui me gêne, c'est qu'elle se propose comme une langue qui remplace les autres langues. Exactement de la même façon que l'anglais remplace les autres langues, qu'une langue impériale remplace les autres langues. Et elle se propose comme langue de contact. Il y a une deuxième objection qu'on peut faire sur l'espéranto. Peut-être qu'il existe des petits d'hommes qui sont nés dans l'espéranto et qui ont parlé d'abord espéranto. Enfin, c'est un nombre très réduit. C'est une langue artificielle. Tant qu'à apprendre l'espéranto de nos jours, ça s'appelle l'anglais. Alors, autant apprendre l'anglais. Mais je veux dire, parlons d'abord des langues naturelles. Mais ne parlons pas d'une langue contre les autres. N'opposons pas les langues, pratiquons-les dans des échanges asymétriques, comme on a essayé de vous le montrer.
Oui, je voulais juste demander si vous avez fait des comparaisons avec les autres techniques d'apprentissage de langues, savoir si, voilà, des statistiques.
Alors, je n'ai pas fait de comparaison moi-même, excepté que j'ai été un jour enfant, et puis que j'ai appris les langues aussi, comme tout le monde à l'école, etc. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'on dit qu'en général, il faut 600 heures pour apprendre à peu près à se débrouiller dans une langue. Il y a des échelles pour mesurer ça et pour arriver à, sur une échelle de 6 degrés, arriver au degré 4 à peu près, 4-5, il faut dans une langue proche à peu près 600 heures, dans une langue lointaine plutôt 800 ou 900. C'est exactement le nombre d'heures que l'on donne d'enseignement d'anglais quand on commence en sixième, même un peu avant de nos jours, jusqu'à la terminale. 3 heures par semaine, multipliées par tant de semaines, multipliées par tant d'années, ça donne à peu près 600 heures. Je vous laisse juge du résultat au moment de la terminale pour la plupart des gens. Nous, avec notre intercompréhension, on dit aux gens, on ne vous prétend pas que vous allez parler anglais, on prétend simplement que vous allez comprendre plusieurs langues en même temps. Il vous faut 60 heures pour y arriver, environ, 10 fois moins. Après, vous pourrez construire une connaissance complète en compréhension et en production de toutes ces langues proches du français. Voilà où est ma comparaison.
Je voudrais ajouter que 600 heures, même 1500 heures, très souvent, n'aboutissent à rien si les gens ne sont pas motivés. Et s'ils ne sont pas motivés, c'est parce qu'au départ, ils n'ont pas l'amour des langues, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas saisi la matière, l'intérêt qu'il y a dans les sons, dans la façon de s'exprimer, etc. Et justement, c'est ce qu'on a constaté avec les publics qu'on a eu dans des ateliers d'intercompréhension, c'est qu'il se produit une ouverture aux langues, aux autres, une ouverture de l'esprit, si vous voulez, qui va énormément faciliter l'acquisition d'une langue après. C'est pour ça que je pense que cette technique serait bien comme si on labourait un jardin avant de planter quelque chose. On ne plante jamais sans avoir préparé le terrain. Eh bien là, je pense que c'est une bonne façon de préparer le terrain et de mettre les gens en appétit.
Oui, d'abord simplement une remarque, mais enfin, ce n'est pas ça ma question. Les dirigeants israéliens parlent pratiquement tous parfaitement l'arabe. Mais alors là, ma question, c'est que vous avez quand même, et vous aurez demain, si j'ai bien compris, là-bas à la Maison de l'Europe, la différence... Ou ici demain, et le 5 octobre, pardon, oui, c'est ça. Et donc vous aurez les langues romanes et les langues germaniques. Alors depuis tout à l'heure, il y a un problème logique pour moi, c'est que vous ne cessez de parler de l'anglais comme étant une langue plus proche. L'anglais, vous le classez apparemment dans une langue proche pour les romans, pour ceux qui parlent enfin les langues romanes. Ça me paraît extrêmement étrange. D'abord, moi, je considère que l'anglais n'est pas une langue, que c'est une espèce de créole. Ça me paraît très étrange que vous ayez l'air de dire qu'il faudrait apprendre l'anglais, par exemple, avant l'allemand. Alors que la logique des choses, ce serait d'apprendre d'abord l'allemand, qui est beaucoup plus simple à apprendre. Il n'y a pas cette complication épouvantable de l'anglais pour la prononciation. L'anglais, c'est une langue... Il y a tellement d'anglais différents. Et il y a, à l'intérieur même, dans les îles britanniques elles-mêmes, ce qu'on appelle le Queen's English, c'est-à-dire les Anglais qui vont à l'école pour réapprendre leur langue pour une prononciation différente qui marque une différence de classe sociale, c'est une langue épouvantable. Comment est-ce que vous pouvez dire, et en plus vous avez dit vous-même que c'était une langue impériale, impérialiste, comment est-ce que vous pouvez dire qu'il faudrait apprendre l'anglais avant d'autres langues ?
Mais non, je la classe pas comme langue latine, je la classe comme tous les linguistes, comme langue germanique. C'est une langue qui a été, par l'histoire, qui est la plus proche des langues romanes, parce que tout simplement, Guillaume le Conquérant. Et ensuite, récupération d'une idiosyncrasie, d'une caractéristique de l'anglais à partir du XVIIIe siècle. Ce que vous dites sur les petits anglais qui réapprennent le Queen's English est parfaitement juste. C'est le cas des petits français qui apprennent à parler le français scolaire. C'est le cas des petits allemands qui apprennent à parler l'allemand scolaire, etc. C'est le cas de toute langue qui s'érige comme une norme à un moment ou à un autre. Et par conséquent, on apprend aux enfants à suivre une norme. Et ensuite, ils s'en écartent ou pas. Et on revient au problème que vous posiez au départ. Est-ce que les gens parlent une langue pure ? Non, ils ne parlent pas une langue pure. Vous dites que l'anglais est un créole. Le français aussi. Le français, malgré ses airs, ses grands airs, ses H initiaux, ses Y, n'est que la langue parlée par les soldats romains à qui on avait donné des terres en Gaule. Et avec l'évolution, et avec en plus les barbares saxons qui sont venus par-dessus, c'est pour vous dire. Les langues sont toujours le fruit du peuple. Elles sont toujours les créoles d'une autre langue, de toute façon. Et il y a un moment où ces langues deviennent plus nobles. C'est le moment où elles s'érigent en littérature. Et où tout d'un coup, la littérature leur donne à la fois une noblesse, un socle, une culture, une référence. Cette littérature, elle est à la fois une façon de distordre la langue, d'en créer une autre et de la fixer. Et c'est quelque chose qui donne donc de la noblesse à une culture. Mais l'anglais est une langue relative. Alors, le problème de l'anglais, je serais assez d'accord avec vous sur le fait qu'il faudrait l'apprendre en dernier, puisque comme c'est absolument obligatoire, il vaudrait mieux retarder au maximum de façon qu'on en apprenne d'autres. Parce que quand on l'apprend d'abord, on n'apprend plus les autres ensuite. Ça, c'est sûr. Alors maintenant, essayez de demander ça à, par exemple, une ancienne ministre de l'enseignement supérieur qui veut qu'on fasse en France les cours en anglais à partir du master. C'est-à-dire qui veut que nous payions nos impôts pour que le français disparaisse. Est-ce que c'est bien dans la logique des choses ? Je m'interroge.
Alors, on va prendre une dernière question avant de clore cette séance.
J'ai une question. Je suis pas sûr de pouvoir la formuler. Je suis pas sûr de pouvoir formuler clairement ma question, mais je vais essayer quand même. Vous nous avez parlé d'utiliser l'intercompréhension entre des langues appartenant à des familles de langues pour différents objectifs, notamment la didactique des langues ou pour apprendre soi-même. Et vous avez aussi évoqué le cas des langues ponts entre différentes familles. Mais est-il aussi envisageable de développer l'intercompréhension entre des langues qui précisément n'appartiennent pas à des mêmes familles, mais qui cependant présentent des structures communes. Et comment l'utiliser, notamment, je pense, à l'étude, à l'auto-formation, à l'apprentissage d'une langue.
Alors, il faudrait reprendre un peu depuis le début, on n'a pas le temps. Je voudrais simplement dire, c'est quand on parle d'apprendre des langues dans une famille de langues, c'est l'image vaut ce qu'elle vaut quand on apprend à faire du vélo avec les petits trous. C'est-à-dire que on roule plus ou moins, mais on est retenu, si vous voulez. Bon. Il y a un moment où l'esprit humain fabrique toute une série de stratégies pour acquérir du savoir. Ça marche dans certains domaines, pour la plupart des gens. Ils ont un domaine de prédilection, puis l'autre pour plein de raisons qui n'ont rien à voir avec l'intelligence, mais beaucoup plus avec l'affect, etc. Ils préfèrent tel prof, alors ils préfèrent telle matière, et puis, etc., etc. Bon, pour les langues, il y a un problème. Il faut savoir qu'en même temps, il faut mettre des limites. Ce n'est pas du français extensif jusqu'en Allemagne. Il y a bien un endroit où ça change. D'un autre côté, à l'endroit où ça change, et même plus loin, les contacts sont permanents. Donc il faut tenir compte, une fois de plus, qu'il n'y a pas de barrière. Il y a un continuum. Et donc, si nous étions au milieu de l'Asie, où règnent les langues d'origine turque, eh bien nous partirions du turc pour aller d'un côté chez les Ouïghours, qui sont déjà un peu chinois, et pour aller de l'autre côté chez les Turcs, les nôtres, ceux de Turquie. Et nous aurions des langues qui sont affines, comme on dit, c'est-à-dire non pas de la même, qui sont un peu cousines, si vous voulez, qui empruntent des choses. Il y a d'autres domaines sur lesquels elles circulent. Le vocabulaire scientifique, il est commun à quasiment toutes les langues. C'est des vocabulaires construits de façon artificielle, à partir du latin et du grec, et qui sert, avec une différence de prononciation, à peu près à toutes les langues. À peu près à toutes les langues. Une des langues qui en pâtit le plus, c'est le grec, où les mots existaient déjà, ont fait leur petit bonhomme de chemin, et tout d'un coup se heurtent à la définition scientifique qu'on leur donne ailleurs. Et ce n'est pas la même chose. Donc, ne regardons pas trop les limites, regardons beaucoup plus, d'une part, les facultés humaines pour faire les choses, et d'autre part, comptons sur les sauts. Mais surtout, ce que je voulais dire pour terminer, parce que je crois qu'il faut terminer, en vous remerciant de nous accueillir si longtemps, c'est que venez pratiquer, demain si vous le pouvez, d'autres moments, venez le voir par vous-même. Un moment dans votre formulation, vous avez dit, pour apprendre en autodidacte ou quelque chose comme ça, vous savez, jamais rien n'est appris autrement que de façon autodidacte. Il y a peut-être un modèle donné par un prof, mais ensuite on assimile les choses et puis un point c'est tout. Ce n'est pas en regardant les autres manger qu'on se nourrit. Eh bien, de la même façon, les langues, ça se pratique. Et ça se pratique de façon substantielle. On s'en nourrit. On s'en nourrit. C'est pareil en cela, et c'est très, très semblable à la musique et au sport. Vous pouvez avoir tous les cours que vous voulez pour savoir comment on court le 100 mètres. La meilleure manière de faire, c'est de courir le 100 mètres. Et la meilleure manière d'apprendre le piano, c'est de faire du piano. La meilleure manière d'apprendre des langues, c'est de pratiquer les langues. Mais pas une langue. Pratiquez l'ensemble des langues. Choisissez après celle que vous voulez. Mais soyez ouverts au fait que les langues ont toutes quelque chose en commun, c'est le langage, et ont toutes une façon particulière de voir le monde, c'est la langue. Et il faut se débrouiller entre les deux. Nous sommes tous différents comme êtres humains, mais nous avons tous le nez au milieu de la figure. Ça, c'est notre similitude. Et notre caractère, c'est ça qui fait notre différence. Il faut prendre les deux en même temps. C'est là qu'est la vérité. Ni l'un, ni l'autre, les deux ensemble.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Pierre Janin et à Françoise Ploguin.